France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. La tombe de Robert Badinter, profanée le jour où l'artisan de l'abolition de la peine de mort entre au Panthéon. L'ancien ministre de la Justice, dont le cénotaphe reposera près de Victor Hugo, qui fut un pionnier de cette abolition. Page spéciale dans ce journal avec Boris Loumagne et Chloé Leprince. Espoir de cesser le feu au Proche-Orient après la validation de la première phase du plan Trump pour Gaza. On attend maintenant le feu vert définitif du gouvernement israélien. Un deuxième prix Nobel de littérature pour la Hongrie, avec Laszlo Krasznahorkai, celui que l'on surnomme le maître hongrois de l'apocalypse. À 18h15, notre rendez-vous consacré aux élections municipales. Maire, pourquoi faire ? On s'intéresse ce soir aux polices municipales. Honte à ceux qui ont voulu souiller sa mémoire. Les mots d'Emmanuel Macron pour dénoncer la profanation de la tombe de Robert Badinter dans le carré juif du cimetière de Bagneux dans les Hauts-de-Seine. Une phrase taguée sur le marbre découverte ce matin. Éternelle est leur reconnaissance. Les assassins, les pédos, les violeurs, la République le sanctifie. Fin de citation. Le ou les profanateurs ont choisi d'injurier l'ancien ministre de la Justice. Le jour de son entrée au Panthéon, le choc était immense ce matin devant le Conseil constitutionnel à Paris, où était exposé le cénotaphe de Robert Badinter, lui qui a présidé l'institution. C'est un reportage de Boris Loumagne.
Ce devait être un moment de recueillement pour se souvenir des combats de Robert Badinter. Mais devant le cénotaphe, ce cercueil recouvert du drapeau français à l'entrée du Conseil constitutionnel, l'actualité est venue tout gâcher et la solennité a laissé place à la colère.
J'ai honte.
Anne est écrivaine, elle vient juste d'apprendre que la tombe de Robert Badinter avait été profanée.
J'ai honte, enfin je peux comment vous dire, honte d'être française, d'être dans toute cette violence actuelle. Et je comprends pas un truc. Voilà, peut-être vous couperez, mais pourquoi la tombe n'était pas gardée en fait ? Je comprends pas pourquoi l'État est aussi naïf, quoi.
À côté d'Anne, il y a Catherine, les larmes aux yeux, complètement abasourdie.
C'est épouvantable. Voilà. Vous l'entendez à ma voix. Voilà. Ça aurait dû être un jour de grâce, et c'est pas le cas. On est dans une tempête où l'État de droit, les libertés publiques sont menacées. Et je suis consternée. Il y a quelque temps, je pensais que bon, lui était parti, mais que son travail restait. Et là, je crains que son travail soit plus que grignoté.
Oui, et cette profanation est un symbole pour beaucoup ici, le symbole que les combats menés par Robert Badinter sont toujours d'actualité.
Et c'est dans une quarantaine de minutes que doit débuter la cérémonie marquant l'entrée de Robert Badinter au Panthéon, la cinquième panthéonisation d'une personnalité sous la présidence d'Emmanuel Macron. Bonsoir Chloé Leprince.
Bonsoir.
Avocat, ministre de la Justice, président du Conseil constitutionnel, Robert Badinter restera d'abord comme celui qui a exécuté la peine de mort, une abolition qu'il avait obtenue de François Mitterrand, dont il était proche. Robert Badinter est mort en février 2024. Il va rejoindre tout à l'heure un lieu très symbolique dans la crypte du Panthéon.
Oui, c'est le caveau de trois figures de la Révolution française qu'avec l'Élysée, Elisabeth Badinter a choisi pour Robert Badinter dans la crypte du Panthéon où Condorcet, Monge et l'abbé Grégoire étaient entrés en 1989. Et à l'époque, c'est l'historien Jean-Noël Jeannenet, alors à la tête de la mission pour le bicentenaire de la Révolution française, qui avait suggéré leur nom à François Mitterrand.
Il représente l'action des révolutionnaires, persuadés qu'ils allaient changer le monde, en tout cas la France, et qui ont contribué tous dans une position d'élus, tous les trois. Et d'autre part, ils avaient un rayonnement, une autorité qui se fondait sur une forme d'intelligence au travail.
Condorcet, pour commencer. Le couple Badinter lui avait consacré une biographie importante en 1988.
Un grand mathématicien et en même temps philosophe de la politique. C'est l'auteur de ce fameux livre sur le progrès humain qui a continué d'inspirer toute la Troisième République. Grand inspirateur de Jules Ferry dans son œuvre magnifique pour fonder l'école républicaine.
Et puis Gaspard Monge aussi, moins connu.
Mathématicien brillant. Et un acteur essentiel, un de ceux qui incarnait par conséquent la conviction que le progrès politique vers l'égalité, vers la liberté, serait forcément entièrement nourri par les progrès scientifiques. Il y avait une foi dans le progrès, comme chez Condorcet, qui a beaucoup marqué cette génération, et peut-être en avons-nous besoin.
Et enfin, l'abbé Grégoire.
Du point de vue de la politique immédiate et de la sensibilité collective, le plus important peut-être.
Jean-Noël Jeannenet.
Il a lutté pour la préservation des richesse, le patrimoine national. Il a lutté pour la fin de l'esclavage.
Et dans Le Rocher de Sustaine, ses mémoires, Jean-Noël Jeannenet raconte toute l'hostilité de l'Église en 1989, en particulier celle du cardinal Lustiger, à voir l'abbé Grégoire panthéonisé. Car ce sont aussi trois incarnations fortes des Lumières et de la laïcité que Robert Badinter rejoindra bientôt.
Nous avons souvent parlé de Clémenceau avec Robert Badinter aussi, qui rejoignait de ce point de vue-là l'idée ombrageuse, attentive qu'avait le tigre dans le domaine de la laïcité. Non pas que c'était d'aucune façon une manière de rejeter la foi, chacun en était libre, mais la nécessité de mettre une barrière absolue entre les religions et le pouvoir. D'ailleurs, Robert Badinter a eu l'occasion de le montrer aussi à propos du judaïsme dans tel ou tel moment qui fut éclatant.
Alors, dans la crypte du Panthéon, Robert Badinter reposera non loin de Victor Hugo, qu'il admirait. Victor Hugo, dont le comédien Guillaume Gallienne lira un texte tout à l'heure lors de la cérémonie. Et ce n'est bien sûr pas un hasard, Chloé.
Il avait plaidé contre la peine de mort devant la cour d'assises, on l'oublie souvent, et défendu l'abolition comme législateur. En 1848, Hugo, alors à la fin de sa vie, avait déposé un amendement alors que l'abolition de la peine de mort, en matière politique seulement, venait d'entrer dans la Constitution. Écoutez Robert Badinter en parler il y a un peu plus de 20 ans.
Hugo, sur un amendement déposé pour élargir l'abolition, est passé à la tribune et a eu ces paroles formidables qui n'ont jamais cessé de me hanter tout au long du débat parlementaire sur l'abolition. Hugo s'est exclamé « Je vote l'abolition pure, simple et définitive. » Oui, j'aurais simplement ajouté aujourd'hui universel, mais pure, simple et définitive, c'était cela, l'abolition.
La voix unique de Robert Badinter en 2002 sur France Culture au micro de Joël Calmette, dossier préparé par Chloé Leprince. 2 ans après les massacres du 7 octobre et le début des représailles israéliennes, l'espoir d'une paix durable renaît au Proche-Orient. Israël et le Hamas ont accepté la première phase du plan Trump pour la paix à Gaza. Il prévoit la libération des 48 derniers otages israéliens, dont 20 seraient encore vivants. En échange, l'État hébreu devrait libérer près de 2000 prisonniers palestiniens. Un cessez-le-feu doit entrer en vigueur dans les 24 heures qui suivront l'approbation formelle du plan par le gouvernement israélien. On retrouve à Jérusalem Thibault Lefèvre. Thibault, on attend le vote du gouvernement d'ici ce soir.
C'est encore flou. Vote reporté à ce soir 20h selon le quotidien israélien Haaretz, à demain matin selon la très sérieuse chaîne 12. La première raison, c'est parce que la liste des prisonniers libérables n'est pas arrêtée. Et puis il y a sans doute d'intenses discussions puisqu'évidemment l'extrême droite opposée à la fin de la guerre hausse le ton. Les ministres Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich n'ont pas le pouvoir de bloquer la validation de la première phase de l'accord, mais ils peuvent à un moment ou à un autre quitter le navire et donc faire tomber la coalition. Il y a un avant-goût de début de campagne électorale en Israël, comme si Benjamin Netanyahou commençait à peaufiner ses arguments en vue d'une élection anticipée. La porte-parole de son bureau cet après-midi, elle s'appelle Shosh Bedrosian.
Les décisions significatives et difficiles prises par le Premier ministre pour en arriver là, et notamment frapper les leaders du Hamas à Doha, ont mis le Hamas dans cette position, les obligeant à revenir à la table des négociations. Le Premier ministre a poursuivi 3 objectifs. Le retour de tous nos otages, la défaite et le démantèlement du Hamas et s'assurer que Gaza ne représente plus de menace pour Israël. Tous les objectifs du Premier ministre ont été atteints.
En réalité, le Hamas est toujours au pouvoir à Gaza, les otages ne sont pas encore rentrés et encore cette semaine, des roquettes ont été tirées de l'enclave sur le territoire israélien.
Thibault Lefèvre à Jérusalem. Alors comment ce moment peut-être historique est-il vécu à Gaza, dans l'enclave palestinienne, ravagée par les bombes israéliennes, les Gazaouis que Camille Magnard a pu joindre, hésitent encore entre la joie et la peur du lendemain.
Pour une fois, ce sont des tirs de joie qu'a enregistré ce matin notre confrère Rami El-Megari dans le centre de la bande de Gaza.
Je me sens tellement soulagé, optimiste, plein d'espoir.
Un cessez-le-feu est annoncé. Ce n'est pas le premier, reconnaît Nabil Diab, lui aussi journaliste, déplacé dans le centre du territoire palestinien. Depuis ce matin, il observe des démonstrations d'espoir timides autour de lui.
Les gens sont vraiment heureux. mais ils ont besoin de repos. Maintenant, tout le monde est vraiment prudent.
Prudence, car il va être difficile pour Nabil Diab de faire confiance aussi bien au Hamas qu'aux Israéliens. Et puis, une fois les armes tues, il y a tant d'inconnus, notamment sur la possibilité de rentrer chez lui dans la ville de Gaza.
Rentrer chez moi où? Là, j'ai pas de maison. Il n'y a rien à Gaza. Il y a quelques personnes qui vont rentrer à Gaza. Mais Gaza est complètement rasé, quoi. Je ne veux pas rentrer chez moi, je veux sortir.
Et c'est une autre interrogation. Les Gazaouis qui le souhaitent, les blessés notamment, pourront-ils librement quitter leur territoire et y revenir aussi librement? On en est loin, croit savoir Abou Tamer Kadash, un autre déplacé au micro de Rami El Megari.
Pour reconstruire tout ce qui a été détruit, ça va prendre au moins 20 ans d'un travail colossal. Même Berlin, pendant la Seconde Guerre mondiale, n'avait pas été aussi détruite que la bande de Gaza aujourd'hui.
Voilà, autant de raisons pour ces Gazaouis d'envisager l'avenir avec des sentiments mitigés. Mais chez tous, il y a la conscience que pouvoir envisager à nouveau l'avenir, c'est déjà un énorme progrès après 2 années à ne penser qu'à leur survie au quotidien.
Camille Magnard de la rédaction internationale de Radio France. Retour à l'actualité française avec le verdict dans le procès en appel des viols de Mazan. Hussam Ettine D, l'unique accusé qui contestait sa condamnation en première instance, a été condamné à 10 ans de prison pour avoir violé Gisèle Pellico. On retrouve à la cour d'assises du Gard à Nîmes Julie Paco. Bonsoir.
Bonsoir.
Julie, la cour a alourdi la peine prononcée lors du premier procès, en raison peut-être de l'attitude désinvolte de l'accusé.
Oui, les 3 magistrats et les 9 jurés de la cour d'assises ont donc condamné Oussam Ettine D à une peine de 10 ans d'emprisonnement. Une peine légèrement supérieure donc à celle prononcée en première instance en décembre dernier et sans mandat de dépôt différé. Cela veut dire que l'accusé dormira ce soir en détention. Lui qui est apparu derrière les vitres d'un box lors du prononcé du verdict et qui est resté impassible face à Gisèle Pellico qui le fixait. La cour l'a donc reconnu coupable de viol aggravé en réunion et sous soumission chimique. Jusqu'à ses derniers mots devant la cour, cet après midi, Oussam Ettine D a nié son intention de violer Pellico, affirmant Gisèle Pellico affirmant n'avoir jamais voulu faire de mal à cette dame, en guise d'ultime déclaration. Mais les jurés semblent avoir entendu en grande partie les réquisitions de l'avocat général, lequel a demandé ce matin une peine de 12 ans de prison, soulignant le manque de recul et la rigidité de l'accusé qui a contribué en conscience à une œuvre de destruction massive d'une femme et cautionné un fonctionnement social sordide et patriarcal. Quand bien même il était convaincu d'être dans un scénario libertin, cela ne change rien, a appuyé le magistrat. Un accusé dont les avocats ont encore invoqué lors de leur plaidoirie la manipulation, l'emprise de Dominique Pellico et demandé aux jurés d'avoir des doutes. À la levée de l'audience, Gisèle Pellico, elle, n'a affiché aucun sourire. Elle n'était pas là pour réclamer la tête d'un homme, a dit son avocat. Elle est sortie sous une nuée de caméras avant d'être longuement applaudie par de nombreuses femmes jusque devant le parvis du palais de justice de Nîmes.
Julie Paco depuis la cour d'assises de Nîmes avec Laurent Macchietti pour les moyens techniques. Il est le maître hongrois de l'apocalypse, selon les mots de la romancière américaine Susan Sontag. Laszlo Krasznahorkai s'est vu décerner aujourd'hui le prix Nobel de littérature 2025. L'écrivain hongrois, âgé de 71 ans, a signé une dizaine de romans, nouvelles ou essais, traduits dans une dizaine de langues, dont le français. L'Académie suédoise l'a récompensé pour, je cite, son œuvre fascinante et visionnaire. Éric Chavroux nous dresse le portrait de Laszlo Krasznahorkai.
Celui dont le nom revenait depuis longtemps parmi les favoris est né dans une petite ville à l'est du pays, près de la frontière roumaine. Grand chroniqueur de la Hongrie communiste et de celle qui lui a succédé, il a grandi dans une famille juive de classe moyenne. Calme, affable et beaucoup lu en Allemagne où il a vécu pendant des années. Laszlo Krasznahorkai s'est fait connaître en 1985 avec Tango de Satan, adapté au cinéma et finalement publié en France en 2000. Sa consécration internationale, mais pas forcément grand public, viendra avec La mélancolie de la résistance, avant notamment Guerre et guerre. Écoutez-le sur notre antenne avec Marie Richeux, traduit par Dominique Radani.
Ha boldog vagyok, akkor eszembe se jut könyvet írni.
Si j'étais heureux, je n'écrirais pas de livre. Il y a eu des périodes dans ma vie où j'ai été heureux et à ce moment-là, je n'ai absolument pas eu l'idée d'écrire sur ce bonheur. Si je suis amoureux d'une femme, mais ça ne me vient même pas à l'idée d'écrire à ce sujet. Je suis amoureux, voilà.
Scénariste et grand voyageur aussi, Laszlo Krasznahorkai qualifie son style de réalité examinée jusqu'à la folie. On évoque souvent ses longues phrases et ses rares paragraphes. avec, selon l'Académie Nobel, de l'absurdisme et de l'excès grotesque, mais aussi une grande beauté lyrique et un ton plus contemplatif et finement calibré. Déjà distingué par de nombreux prix internationaux, celui qui a légué l'intégralité de son patrimoine littéraire à la Bibliothèque nationale autrichienne a cité Franz Kafka, Jimi Hendrix et la ville de Kyoto comme ses sources d'inspiration.
Laszlo Krasznahorkai, qui est le deuxième auteur hongrois Nobel de littérature après Imre Kertész en 2002. Vous pouvez le réécouter sur notre site franceculture.fr. Un mot du temps demain, calme et ensoleillé sur la plupart des régions après la dissipation des brouillards matinaux. Les températures minimales iront de 5 à 10 degrés en général. L'après-midi, il fera entre 16 et 24 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Brice Garcia à la technique Noé Chaban.